Radio Courtoisie,
indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Bonjour David Engels.
Bonjour Richard.
Alors hier soir, Viktor Orbán a subi une défaite écrasante. Comment interprétez-vous ces faits, vous qui avez déjà vécu comme spectateur la fin du gouvernement de droite en 2023?
Oui, tout à fait. D'un point de vue conservateur, la chute d'Orbán est à la fois un moment qui donne à réfléchir, mais aussi une occasion potentielle de renouveau. Orbán s'était présenté souvent, à juste titre, comme le défenseur inébranlable de la civilisation européenne en matière de frontières, de politique familiale, de continuité démographique et d'un continent conscient de ses racines chrétiennes face aux tendances sécularisantes, centralisatrices, obsédées par la cause LGBTQ et favorables à l'immigration qui émanait de Bruxelles. Cette défaite a toutefois révélé les limites d'un système qui, malgré de réelles avancées, s'était empêtré dans le clientélisme, les accusations de corruption et une certaine routine du pouvoir qui a érodé la confiance du public et la crédibilité morale. En même temps, les impératifs de la survie politique avait poussé Orbán petit à petit à passer de sa défense initiale d'une vision conservatrice et chrétienne de la coopération européenne à une quête de plus en plus opportuniste de soutien extra-européen, que ce soit de la Russie, des États-Unis, de la Chine ou même de la Turquie. Une quête souvent jugée trop opportuniste et qui a aliéné bon nombre de ses partisans européens et probablement aussi de ses électeurs. Si l'on ajoute à cela l'incapacité typique des partis conservateurs de la vieille école comme le Fidesz, à séduire les jeunes électeurs, plus intéressés par les questions identitaires que par les questions économiques, l'énorme pression exercée par l'Union européenne et bien sûr l'esprit général de gauche libérale véhiculé par les médias de masse et les réseaux sociaux, il n'est pas trop difficile d'expliquer la défaite d'Orbán, même si son ampleur, tout simplement écrasante, reste stupéfiante et montre à quelle vitesse tout un empire politique peut s'effondrer en quelques heures à peine. Ainsi, en Hongrie même, les prochains mois apporteront sans doute une réorientation institutionnelle massive et un genre de normalisation économique. Le programme de TISA, c'est-à-dire le parti de Peter Magyar, a insisté à plusieurs reprises sur la nécessité de débloquer environ 18 milliards d'euros de fonds européens gelés en rétablissant l'état de droit. Alors évidemment, il n'y a rien de mal à démanteler les réseaux clientélistes qui sapent l'ordre moral et l'efficacité économique d'un État. Cependant, l'expérience polonaise montre que, dans la pratique, rétablir l'état de droit signifie bien souvent remettre en place un appareil institutionnel fermement aligné sur l'idéologie libérale de gauche et des structures de personnel soutenues par l'Union européenne. Si le système clientéliste d'Orbán disparaît, ce ne sera probablement qu'au profit d'un autre système d'état profond à peine moins problématique. Un système qui, grâce à la nouvelle supermajorité de Magyar, pourra même réécrire la constitution hongroise jusqu'à ce qu'elle semble faite sur mesure.
Alors justement, quelles seront les conséquences concrètes de cette nouvelle situation ?
Eh bien, d'abord, on peut s'attendre dans les semaines à venir à une restructuration massive du personnel dans toutes les organisations publiques et sous influence de l'État, des médias et des think tanks, à la bureaucratie et aux universités, en passant par le monde des grandes corporations. Si Magyar est aussi efficace que l'était Tusk, il y a quelques années en Pologne, les listes sont probablement déjà bien préparées et les semaines à venir pourraient voir un retour de bâton massif contre tout ce qu'Orbán a construit au cours de ces 16 dernières années, y compris, bien sûr, lui-même, car il n'est en aucun cas exclu que la Hongrie soit bientôt submergée par de nombreux procès pour corruption, violation de la Constitution, voire haute trahison. Certaines institutions clés, comme la MCC, pierre angulaire de la politique éducative du Fidesz, ont été expressément conçues pour résister à une telle pression, grâce à un financement indépendant, et survivront probablement même sous le régime de TISA. Cependant, il reste à voir si ces institutions-là souhaiteront vraiment jouer le rôle d'opposition de dernier recours, une fois Viktor Orbán parti, ou si elles s'aligneront plutôt prudemment sur le nouveau pouvoir pour assurer leur propre survie. En ce qui concerne l'économie, on a souvent fait valoir que les mesures de relance à court terme, issues des fonds européens débloqués, combinées aux promesses de TISA de maintenir et d'étendre les prestations familiales et les allègements fiscaux pour les personnes touchant le salaire minimum, pourraient générer une croissance modeste du PIB de 2,5% à 3,5% d'ici 2028-2030. Pourtant, Compte tenu de la situation géopolitique générale, en particulier des développements concernant l'Iran, on peut douter que la Hongrie, même sous le régime de Magyar, échappe à la stagnation économique. D'autant plus que la réduction progressive de la dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie, c'est l'objectif 2035 de Peter Magyar, et l'augmentation des investissements dans la santé et l'éducation seront coûteuses, tout comme pourrait l'être le choc économique lié à l'entrée dans la zone euro d'ici 2030, une autre promesse de Peter Magyar.
Alors justement, Viktor Orban, lui, avait ses propres dépenses d'investissement, comme les fameuses politiques pronatalistes qu'il avait lancées, exonération fiscale à vie pour les mères de plusieurs enfants, aide au logement, etc. Qu'est-ce que cela va devenir ?
Eh bien, à première vue, ces politiques pourraient sembler largement assurées par les promesses tout à fait centre-droitistes de Tissa, qui promettent explicitement la continuité, même le renforcement du soutien aux familles et d'ailleurs aux personnes âgées. Cependant, à long terme, l'inefficacité massive de certaines de ces mesures, même sous Orban, pourrait fournir des raisons suffisantes pour les réduire progressivement, ce qui risquerait d'affaiblir évidemment le modèle de la famille classique, si soigneusement défendu par Orban, et d'obliger davantage de mères à réintégrer le marché du travail. De même, on peut douter que la politique migratoire affiche vraiment la continuité promise par Magyar, comme le maintien du mur frontalier, le refus des quotas de relocalisation obligatoires et l'opposition au pacte migratoire de l'Union européenne. Très probablement, comme ce fut le cas en Pologne, une certaine forme de rhétorique anti-immigration rassurante continuera d'être cultivée et tacitement tolérée par l'Union européenne tant que les réseaux personnels d'Orban et la base économique du Fidesz seront systématiquement démantelés. Ce n'est qu'une fois que le nouveau système sera solidement en place qu'on pourra alors assister à un virage plus explicite vers le multiculturalisme et bien sûr vers d'autres questions intersectionnelles comme le renforcement de la protection des minorités LGBTQ, des politiques liées au genre, etc.
Alors, quel va être l'impact de ces élections hongroises sur le reste de l'Union européenne et de l'Europe d'ailleurs ?
Oui, alors d'abord, pour la droite politique européenne, la perte de Budapest en tant que pôle majeur, voire unique, du conservatisme sur le continent constituera une évolution très problématique. Car sans le soutien hongrois, de nombreuses associations médiatiques, éducatives ou militantes perdront l'accès au financement et à la coordination, laissant ainsi de nombreuses personnes livrées à elles-mêmes et rendant la résistance conservatrice face au wokisme plus difficile que jamais. Mais en même temps, une telle perte pourrait aussi être une expérience salutaire, car le rôle quasi monopolistique joué par la Hongrie ces dernières années comportait aussi certains dangers. En l'absence de tout contrepoids conservateur européen, les positions hongroises, et donc les intérêts spécifiques d'un petit pays d'Europe centrale, influençaient de plus en plus les procédures de recherche de consensus au sein de toute la droite européenne. Cette situation n'avait bien sûr pas de véritable alternative à l'époque, mais elle n'a pas toujours eu la meilleure influence sur l'interprétation de notions complexes et controversées telles que le patriotisme européen, l'identité occidentale, les valeurs chrétiennes, la subsidiarité ou l'avenir de l'État-nation. Alors d'un point de vue à la fois conservateur, patriotique et pro-européen, mais pas nécessairement pro-Bruxelles, la perspective d'une Hongrie marquée par une attitude plus constructive envers l'intégration européenne et moins encline à s'aligner sur la Russie, la Chine, la Turquie ou les États-Unis de Trump offre un certain réconfort. Car le style conflictuel d'Orban, aussi fondé sur des principes qu'il soit dans la défense de la souveraineté et des valeurs chrétiennes, a le plus souvent renforcé une certaine forme de nationalisme en contradiction avec le patriotisme civilisationnel si urgent pour la survie de notre communauté européenne, menacée par la dissolution interne et de nombreuses menaces extérieures. Pourtant, la prudence impose évidemment un alignement excessif risque de subordonner les intérêts nationaux et civilisationnels légitimes à un consensus bruxellois largement dominé par le libéralisme de gauche, voire le wokisme. Ce risque est d'autant plus grand que le départ d'Orban élimine le dissident interne le plus efficace et le plus constant de l'Union européenne, et Bruxelles fera sans doute tout son possible pour tirer parti de cette fenêtre d'opportunité actuelle et s'assurer qu'aucune opposition similaire ne se manifestera à nouveau en Hongrie. l'Union qui sortira donc de cette situation risque de devenir moins contestée en interne, mais plus uniforme dans ses perspectives réglementaires, culturelles, idéologiques. Et cela pourrait être le moment idéal pour faire passer une fédéralisation, voire centralisation plus poussée de l'Union européenne dans des domaines cruciaux comme la surveillance de masse, la censure, la politique fiscale, l'avortement, l'euthanasie, la politique migratoire et les questions LGBTQ, érodant ainsi les principes de subsidiarité et sapant les derniers vestiges de la civilisation chrétienne qu'Orban s'était battu, même imparfaitement, à préserver.
Alors, votre conclusion pour comprendre les conséquences de ces élections hongroises ?
Ben, au final, la véritable importance de la transition politique en Hongrie ne réside pas seulement dans le sort d'un seul gouvernement, mais dans la trajectoire plus large de l'Europe elle-même. La chute d'Orban marque la fin d'un chapitre au cours duquel la Hongrie a servi, parfois de manière controversée, de laboratoire le plus visible du continent pour la résistance conservatrice à la sécularisation, à la centralisation, au multiculturalisme, à la culture de la mort et au déclin démographique. Sa défaite met en évidence les limites d'un pouvoir solidement ancré, en particulier lorsque le clientélisme, la lassitude, les pressions extérieures, l'érosion morale et un genre de zeitgeist hostile se combinent pour affaiblir la confiance du public. Pourtant, cela soulève aussi une question plus immédiate et inquiétante. Qu'adviendra-t-il de l'Europe lorsque sa nation dissidente interne la plus tenace choisira ou sera contrainte de s'aligner sur le consensus de Bruxelles ? Sans les frictions créées par des États soucieux de leur souveraineté, l'Union européenne risque d'accélérer sa propre radicalisation selon des lignes idéologiques déjà visibles dans les débats sur la migration, le genre, la censure ou la subsidiarité. L'absence de résistance ne générant généralement pas la modération, mais invitant plutôt à l'excès. En même temps, la transformation de la Hongrie met en lumière un autre paradoxe. La géographie idéologique de l'Europe elle-même est peut-être en train de changer, même massivement. Pendant des décennies, l'Europe centrale et orientale a représenté la conscience conservatrice du continent, ancrée dans le souvenir du totalitarisme communiste, l'attachement à la foi et le patriotisme culturel. Pourtant, la prospérité croissante, le changement générationnel et l'exposition culturelle aux réseaux médiatiques progressistes sont en train de remodeler progressivement ces sociétés. Si la Hongrie et ses voisins se rapprochent du consensus bruxellois, tandis que l'Europe occidentale continue de se battre avec des crises identitaires, des pressions migratoires et la fragmentation sociale, on pourrait finalement assister à un renversement inattendu. Une Europe centrale et orientale dérivant vers un genre de normalisation libérale gauchiste, tandis que certaines parties de l'Europe occidentale redécouvriront des réflexes identitaires et conservateurs en réponse au déclin. Une inversion qui modifierait profondément le paysage stratégique du conservatisme européen. Ainsi, avec la Hongrie temporairement perdue pour le conservatisme, le continent européen sera donc confronté à un défi majeur qui pourrait s'avérer décisif pour son avenir. Comment éviter de tomber dans les griffes d'un projet eurofédéraliste brandi par les élites woke comme une arme dans la lutte contre la droite, sans sacrifier pour autant le besoin urgent d'unité du continent aux tentations du souverainisme et de la fragmentation?
Eh bien, merci beaucoup David Engels et prenons le pari qu'on va pouvoir documenter cette suite des événements avec vous chaque semaine.
Ligne droite, l'analyse.
Et pour l'analyse, je reçois avec bonheur Régis Le Sommier, voilà, directeur d'Omerta, ou pardon, pas exactement directeur, c'est quoi votre...
Directeur de la rédaction.
Directeur de la rédaction d'Omerta. Bonjour Régis.
Bonjour Richard.
Voilà, et on va bizarrement parler de l'Iran. Oui. Voilà, donc les négociations ont échoué, ou en tout cas, à défaut d'avoir totalement échoué, je cite ce que dit M. Vance, qui a expliqué être reparti en ayant posé sur la table quelque chose. Nous repartons d'ici avec une proposition très simple, une approche qui constitue notre offre finale et la meilleure que nous puissions faire. Nous verrons si les Iraniens l'acceptent.
Oui, c'est assez lunaire. Alors, il y a plusieurs choses qui sont dans ces négociations extrêmement étranges. Alors, d'abord, quand vous venez dans une optique de négocier, vous ne posez pas un ultimatum. C'est comme ça que l'ont ressenti les Iraniens. C'est-à-dire que les Américains sont revenus avec en tête absolument cette idée de régler la question du nucléaire. C'était, semble-t-il, le dossier prioritaire, le paramètre prioritaire pour leurs négociations. Rappelons déjà en préambule de ce propos que la question du nucléaire était précisément celle qui était discutée et qui était en phase d'aboutir au moment de l'entrée en guerre. Donc c'est quand même assez cocasse aujourd'hui de remettre ce dossier comme si rien n'avait changé, qui était précisément le 27 février, un jour avant le déclenchement des frappes, le cœur de la négociation entre Iraniens et Américains. Ensuite, il y a eu, de la part de J.D. Vance, plusieurs périodes. Alors, le bon côté, parce qu'il faut quand même toujours voir les choses de façon optimiste à mon sens, c'est que Américains et Iraniens ont discuté pendant 21 heures. On ne discute pas pendant 21 heures quand on n'est absolument pas d'accord et quand on sait que de toute façon, tout va échouer. Déjà, le fait que ce niveau de négociation ait eu lieu est une excellente chose, je pense, dans la mesure où depuis 47 ans, depuis la création de la République islamique d'Iran, jamais un dignitaire américain du calibre du vice-président ne s'était entretenu avec un dignitaire iranien du calibre du chef du Parlement. Voilà, ça n'était jamais arrivé. Donc de ce point de vue-là, il y a quelque chose d'historique dans ces négociations. Chacun est venu à Islamabad, les Iraniens en avion, mais avec quelques craintes d'être, à la suite de l'échec des négociations, éliminés par les Israéliens. Il y a eu réellement ça, éliminés, que leur avion soit ciblé. Donc l'avion iranien est revenu sur le territoire iranien, accompagné par les chasseurs pakistanais. C'est quand même des choses, voilà, on est quand même dans un degré de confiance quand même très limité. Et puis il y a le fait que du point de vue des Iraniens, vous avez deux négociations déjà qui ont échoué, qui ont échoué parce que au cœur et au milieu de la négociation, la guerre a recommencé, ou a commencé. Je parle de 3 juin 2015, où en plein milieu des négociations entre Américains et Israéliens au Sultanat d'Oman à l'époque, Israël décide d'attaquer l'Iran, ça va être la fameuse guerre des 12 jours, et donc du coup les négociations qui étaient en cours échouent et s'effondrent. Là, pareil, février, ça c'est, on est à Genève, on est dans un processus qui dixite le ministre des Affaires étrangères omanais, qui était le négociateur, Monsieur Al-Busaidi. On n'a jamais eu un accord aussi favorable sur le nucléaire iranien pour les Américains, de leur point de vue. Al-Busaidi disait, il est même meilleur que celui de 2015, il est même plus contraignant pour l'Iran que celui négocié par Barack Obama. Patatras, le lendemain, les États-Unis décident d'attaquer, cette fois-ci avec Israël. Donc en termes de confiance, du point de vue des Iraniens, on est quand même dans des choses très très limitées. Néanmoins, il y a un cessez-le-feu. Et puis, ce qui se passe, c'est que les Iraniens arrivent avec une délégation, on va dire, très capée. Environ 300 personnes sont là, donc ça veut dire qu'on va discuter de plein de niveaux de négociations différentes, que ça se fait en effet à partir des 10 points proposés par l'Iran et non pas des 15 proposés par les États-Unis précédemment. Mais les États-Unis ont accepté de discuter de ces 10 points avec des lignes rouges de part et d'autre. Et il semble que sur la plupart des points, on soit tombé à peu près d'accord, sauf sur deux. Qui sont les principaux. C'est intéressant parce que quand on fait le parallèle avec l'Ukraine, c'est toujours les deux mêmes points en Ukraine aussi qui ne permettent pas d'aller, en l'occurrence, la récupération par les Russes du Donbass et les garanties de sécurité côté ukrainien. C'est toujours ces deux-là qui, finalement, font bloquer la négociation. Et là, il s'agit des deux. Le nucléaire, la question du nucléaire. Les États-Unis demandent zéro enrichissement. Évoque cette question alors qu'il n'était pas prévu qu'elle soit évoquée. Donc ils reviennent sur une position ultra et la réouverture immédiate et sans délai du détroit d'Hormuz. Donc sur ces deux points, il n'y a pas d'accord. Mais ce qui est intéressant, alors côté américain, c'est un peu plus brouillon, on va dire. J.D. Vance arrive, les négociations devaient commencer, il demande à dormir 4 heures pour récupérer du décalage horaire. Bon, soit. Mais on sent que aussi il est mandaté par Trump, mais il est aussi cornaqué par le président américain qui est au bout du fil H24, qui va l'appeler 14 fois pendant la négociation. Et pire pour les Iraniens, un coup de fil à un moment de J.D. Vance, Netanyahou au téléphone directement pendant la négociation. Vous comprenez que du point de vue iranien, ça peut quelque peu gêner la conduite de... Quand vous avez quelqu'un qui est... Attendez, voilà, comme un courtier de bourse, quelqu'un qui... Attendez, il faut que j'appelle... voilà.
Vous aviez souligné la semaine dernière que c'était censé être un moment... sinon de gloire, en tout cas de révélation pour J.D. Vance,
pas du tout.
Qui avait été sélectionné par les Iraniens.
Oui.
Et là, au contraire, on a l'impression qu'on lui a mis une claque sur le museau.
Ah bah, on lui a mis une claque sur le museau. On l'a envoyé d'abord soutenir Viktor Orban. On connaît le résultat aujourd'hui. Il y a un certain nombre de plaisanteries qui circulent sur les réseaux à propos de J.D. Vance, comme quoi, vous savez, ça avait été la dernière personne à voir le pape François vivant. Il est allé le voir. Le pape est mort, là il va voir Viktor Orban, c'est l'échec, et il finit par la négociation et c'est l'échec aussi. Donc certaines personnes se disent...
Emmanuel Macron va l'inviter.
Voilà, se disent que J.D. Vance porte la poisse, mais en réalité, pour être plus sérieux, je ne pense pas... Alors, il y a tous ces paramètres qui montrent que du côté américain, on est beaucoup plus brouillon, alors que du côté iranien, on arrive avec des vraies propositions, les bonnes personnes derrière, donc quelque chose de parfaitement organisé, qui montre d'ailleurs que les Iraniens sont extrêmement organisés et qu'ils ne sont pas du tout dans un état de déconfiture. Si vous voulez, le problème, c'est que Donald Trump s'imagine encore, en son fort intérieur, croyant dur comme fer à sa victoire militaire. Vous savez, je prends l'exemple de il passe son temps à dire l'aviation iranienne a été détruite, l'armée, la marine iranienne est au fond de l'eau. Et là, on apprend par le New York Post, qui est quand même un journal très pro-Trump, que 80% des vedettes rapides des gardiens de la Révolution sont parfaitement en état d'opérer dans le détroit d'Ormuz. Donc, quand il dit la marine est au fond de l'eau, non, elle n'est pas au fond de l'eau. Donc, en fait, Donald Trump se persuade que en fonction grâce aux 10 000 objectifs ciblés par les Iraniens, les Américains et les Israéliens en Iran, eh bien, la victoire se compte au nombre d'objectifs atteints, au nombre de pièces détruites, alors qu'en réalité, on est dans une guerre asymétrique que Donald Trump, fondamentalement, ne semble pas comprendre. C'est-à-dire, non seulement il continue à minimiser ses adversaires, mais en plus, il a une notion de la victoire qui n'est pas du tout la même que, et forcé de constater que les Iraniens, ayant résisté, sont plutôt en position de force aujourd'hui. Et ça, il ne peut pas l'admettre. D'où la deuxième partie avec le blocage du blocage. Voilà.
Là, qui est absolument fascinant. Donc, puisque les Iraniens sont hors la loi, contreviennent au droit international en bloquant le détroit d'Ormuz, normalement il y a une liberté de navigation, eh bien c'est les États-Unis, ces chantres de la liberté et du libre commerce, qui nous expliquent que c'est eux qui vont bloquer NA.
Mais
ce qui est absolument fascinant, voilà,
c'est un combat de catch, vous savez, il faut toujours le plus voilà, il y a le premier adversaire, en plus c'est faux, donc c'est de la parade, le premier adversaire se fait terrasser, puis il y en a un plus gros qui arrive derrière, parce qu'il faut à tout prix, voilà, et là on bloque le blocus, alors que pour débloquer le détroit, détroit qui n'était pas bloqué au début de la guerre.
On a tous remarqué que brusquement le déblocage du détroit d'Ormuz devient le seul objectif diplomatique de Donald Trump, alors que c'était pas du tout pour ça que la guerre avait été déclenchée.
Complètement, et surtout cette guerre donc n'avait pas du tout ça comme objectif, encore que les objectifs ont toujours été assez flous du point de vue américain, changement de régime, pas changement de régime, saisine des 440 kilos d'uranium ou pas, bref, tout ça a toujours été très très flou de la part des Américains, mais en tout cas il n'y avait pas cette histoire du détroit d'Ormuz, ce qui est en fait la concentration des efforts américains étant sur ce domaine aujourd'hui, montre bien que c'était pas prévu et montre bien que de facto c'est un échec, c'est-à-dire donner ce levier aux Iraniens sur l'économie mondiale, sur l'économie de la région, si on y ajoute l'attaque coordonnée par l'Iran sur les alliés américains, ceux qui accueillaient des bases et sur ces bases même, là on est dans une gabegie totale, on est sur deux paramètres qui ont été totalement sous-estimés. Et ce qui est très intéressant, c'est que là encore une fois, il y a un journal qui a fait vraiment un boulot fabuleux, c'est le New York Times, pour reconstituer, il y a un article qui reconstitue justement l'entrée en guerre des États-Unis, et on se rend compte que bon, la plupart des arguments dont nous évoquons aujourd'hui ont été soulevés par l'équipe de Donald Trump à Donald Trump, en particulier J.D. Vance, qui avait signaler que la saisine du détroit d'Ormuz par l'Iran constituerait un levier international incroyable à disposition du pays. Il n'avait pas dit que ça changerait le cours des choses, mais en tout cas, il avait souligné qu'il y avait un risque là, d'autres risques étant effectivement l'attaque des bases, les alliés, le fait que cette guerre n'était pas populaire, qu'elle risquait de briser le mouvement MAGA. Enfin, tout ça avait été évoqué à une réunion qui a eu lieu le 12 février dernier, à la suite de la visite le 11 février de Netanyahou à Washington. Netanyahou, lui, ayant un plan, a fait une présentation à Donald Trump, qui était très impressionné par Netanyahou. Et en fait, son équipe discute de ça juste après. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on voit que la plupart, même Rubio, même Witkoff, sont sceptiques par rapport au plan proposé par Netanyahou.
Ils expliquent ce plan en quatre parties. Les deux premières sont peut-être valables, mais que sinon, comme tous les plans de Netanyahou et d'une manière générale des Israéliens, disent-ils.
C'est ce que dit le général McCain,
voilà,
qui est quand
en
même
fait, le plan ne peut pas aller jusqu'au bout et que les conditions d'exécution sont fragiles.
Oui, donc c'est quand même donc des choses qui ont été anticipées au moins verbalement et qui ont été écartées au profit de l'hypothèse d'une guerre courte avec soulèvement de la population, changement du régime, restitution du nucléaire, et on avance et voilà.
Alors, pour le moment, donc les Américains ont mis fin aux négociations, mais tout en laissant une proposition sur la table. Donc, il y a quelque chose de fragile. Le Pakistan a exhorté les Américains, les Israéliens à ne pas reprendre l'offensive. Mm-hmm. Voilà, après tout, il y a un cessez-le-feu qui avait été signé, qui avait été obtenu. Et le Pakistan est toujours prêt à jouer de son entremise et de son intercession pour faire en sorte que les choses s'arrangent. À côté de ça, Israël a l'air au contraire décidé, sinon d'attaquer l'Iran, mais en tout cas de continuer à massacrer les Libanais, avec d'ailleurs cette déclaration étonnante de l'ambassadeur d'Israël en France, que nous avons évoqué dans le flash ce matin, qui explique qu'en fait, il y a les bons chasseurs et les mauvais chasseurs. Les mauvais chasseurs, c'est ceux qui envoient une bombe et ça tue des civils, et puis il y a les bons chasseurs, ce sont les Israéliens qui envoient des bombes uniquement sur les gens du Hezbollah, et puis manque de peau, il y a des gens autour d'eux qui meurent aussi, et c'est vraiment pas de bol. Et, quelque chose d'absolument incroyable, où on explique très tranquillement qu'effectivement avoir fait des centaines de morts et des milliers de blessés, je dis des centaines de morts,
on arrive à 2000 morts
libanais, en fait c'est un coup de pas de bol, parce que sinon évidemment la manière dont l'armée israélienne se bat est terriblement morale. J'ai un développement un peu long parce que j'étais tombé sur un post sur le réseau Twitter, le ex-Twitter X de Avishai Adre, la fameuse voix qui explique
voix
aux gens partez,
au
sortez de chez vous, on va vous balancer un missile, et qui expliquait avec des trémolos dans la voix qu'il était bien normal que l'armée israélienne se soit arrêtée pour laisser des tortues traverser le chemin, et donc des chars se sont arrêtés, et voilà, mais une fois que les tortues sont passées, les chars ont tiré, et en revanche voilà, ce sont des Libanais qui sont morts. Donc on a quand même l'impression d'une espèce de rage israélienne à l'encontre du Liban qui est absolument désormais sans limite.
Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer. Alors, du point de vue israélien, on ne peut pas dire que le rapport avec le Liban, c'est quand vous allez au Liban, moi j'y ai passé 8 jours, j'y étais il y a 10 jours. L'état d'esprit de la population, c'est on se remet dans l'idée de la possibilité d'une occupation israélienne. Donc, occupation israélienne, c'est 82-2000. Le sud Liban était occupé par Israël à l'époque, ce qui a donné d'ailleurs naissance au Hezbollah. Avant, il n'existait pas, mais le Hezbollah étant perçu ensuite et se faisant appeler lui-même la résistance, hein, en souvenir de cette époque, c'est là où Nasrallah a fait sa notoriété, bien au-delà d'ailleurs des simples communautés chiites, iraniennes ou chiites dans le monde. Même les sunnites avaient été impressionnés par cette capacité de tenir tête à la première armée de la région, comme en fait par cette guérilla du Hezbollah. Ce qui rend d'ailleurs aussi les choses, ce qui explique aussi la complexité des choses aujourd'hui pour Israël au Liban Sud, parce que bon, l'objectif c'est le Litani, mais on en est quand même très très loin, le fleuve qui est environ une trentaine de kilomètres de la frontière. Là, les Israéliens contrôlent globalement une dizaine de kilomètres par endroit et souvent moins depuis leur frontière, donc ils n'ont pas réussi une opération éclair qui viserait à éradiquer le Hezbollah. Donc il y a aussi, je pense, dans un premier temps, une certaine rage, la rage de l'échec militaire et la rage aussi de considérer qu'on est à nouveau dans un précédent historique. Ce qui est très intéressant de suivre aussi, en dehors de Avishai Adraé sur Twitter, c'est les tweets d'Ehud Olmert, opposant à Netanyahou, ancien Premier ministre d'Israël, et qui lui, par contre, a eu l'échec de 2006, nouvelle incursion au Liban Sud, qui se termine par une cinquantaine de morts et un retrait israélien qui renforce à nouveau le Hezbollah. Donc, Ehud Olmert, d'ailleurs, qualifie le sud du Liban de marécage. Voilà. Et dans le jargon de l'armée israélienne, il y a une zone en particulier qui est surnommée la jungle du Hezbollah. Vous voyez, donc c'est des zones qu'en gros, les soldats d'Israël, les soldats israéliens en général essayent d'éviter. Ça prouve que voilà, c'est un problème extrêmement complexe. On en discutait l'autre jour lors d'un débat avec Roni Broman, qui est donc le grand humanitaire devant l'Éternel, et qui, opposant évidemment israélien de gauche, et qui me disait, vous savez, depuis que j'ai 5 ans, depuis que je suis en âge de comprendre, on m'explique toujours qu'on va intervenir pour régler définitivement le problème du terrorisme. Il dit, au début, à une époque, c'était l'OLP, c'est devenu ensuite le Hamas, ensuite ça a été le Hezbollah, et en gros, il doit avoir 65 ans, je pense, Roni Broman, et on n'est jamais arrivé au bout, donc il y a toujours eu ce maintien permanent de l'état de guerre, en fait, en Israël. Mais pour revenir à votre question sur la façon de présenter les choses, oui, c'est quand on se place du point de vue du Liban, et là, encore une fois, je vous cite des gens qui ne sont pas des gens proches du Hezbollah, je pense en particulier à Fouad Kourielou, qui est un des directeurs historiques de L'Orient le Jour, que j'ai rencontré à Beyrouth, qui figure dans notre documentaire d'Omerta, et nous étions à côté de la place des Martyrs au centre de Beyrouth, et on entendait, comme tous les Libanais tous les jours, le drone israélien qui fait un bruit de tondeuse dans le ciel, un drone Hermès 450 qui surveille, et il me dit, je lui dis, ah oui, c'est pénible, hein, c'est toujours ce bruit, il me dit, vous savez, pour les Libanais, ce bruit, c'est le bruit de la nouvelle occupation israélienne. Voilà. D'ailleurs, c'est une occupation sonore. Et il dit parfois, les drones dans le sud du Liban, d'ailleurs, font, parler des tortues, les chars qui s'arrêtent, mais les drones font des barrages flottants. C'est-à-dire qu'ils arrivent au milieu de la route et ils indiquent à une voiture de faire demi-tour. Le drone. Donc il y a une sorte d'installation. Et il dit, ça rappelle la guerre civile où les miliciens, dans certains coins, faisaient aussi des barrages flottants à l'époque civile. Mais maintenant, constitués de combattants, là maintenant c'est le drone qui l'opère. Et en fait, cette surveillance permanente est déjà une manière d'habituer, ou en tout cas de pénétrer dans l'esprit des Libanais, comme quoi c'est toujours là. L'autre exemple aussi que j'ai vécu, moi, cette fois-ci à Saïda, ville qui a été frappée de nombreuses fois, qui est au sud, sud de Beyrouth, à une centaine de kilomètres de Beyrouth, où nous arrivons, il était 10h du matin, et on voit on voit des ambulances prépositionnées, des cordons de policiers autour d'une route, on va voir ce qui se passe, et on nous explique que l'immeuble qui est là est un immeuble d'une banque qui s'appelle Al-Karg Al-Hassan, qui est l'une des banques chiites, en fait, du Hezbollah, et l'immeuble va être, Israël a demandé d'évacuer la zone pour frapper cette institution financière, en fait. Et en ce moment, au même moment, ils faisaient ça dans d'autres parties du Liban. Donc, le quartier est complètement, on va dire, vidé. S'il y a des ambulances, c'est tout simplement parce que, en fait, il y a quand même des gens pas très loin et qu'on n'est pas certain de du type de bombe. Ça peut être une bombe de 500 kilos qui pulvérise l'immeuble, ça peut être un petit missile, et en fonction de ça, évidemment, les dégâts et potentiellement les blessures peuvent être... voilà. Donc il y a une incertitude totale, et ce qui était terrible ce jour-là, c'est qu'on y allait d'ailleurs pour rencontrer des réfugiés qui étaient autour de cet endroit, le quartier a été bloqué pendant 5 heures et les Israéliens n'ont pas frappé. Donc ça veut dire qu'en fait, voyez on va frapper tel immeuble, évacuer, puis finalement, non, on le fait pas. Il y a aussi les zones où les journalistes libanais, ils ont pris l'habitude d'essayer de, d'abord pour leur propre protection, souvent, de se tuyauter en fonction de l'arrivée des chasseurs israéliens. Il se produit quelques secondes entre le passage de la frontière au sud ou quand ils sont détectés au-dessus de la mer. Ils viennent souvent de la mer, d'ailleurs. Pour larguer leurs bombes. Et donc, les journalistes libanais ont une espèce de logiciel sur les réseaux sociaux pour prévenir, en gros, essayer d'anticiper, pour pouvoir prendre d'ailleurs en photo l'impact aussi, parce que les chaînes internationales en sont friandes, et c'est souvent des staffeurs libanais qui vont faire ça, notamment à Dahriyeh, au sud de Beyrouth. Et en fait, vous avez aussi... Live Map, qui est une application sur laquelle on reçoit les zones qu'Israël a demandé d'évacuer. Et ces zones, elles peuvent évoluer. Et notamment sur la banlieue sud de Beyrouth, vous avez le quartier sur la colline qui s'appelle Baabda. En fait, c'est pas un quartier, c'est une ville. C'est là où se trouve le palais présidentiel. Et une nuit, on se trouve sur un promontoire pour photographier et filmer Dahriyeh qui est bombardé. On voit sur notre gauche les missiles iraniens qui, eux, vont taper Tel Aviv, donc des espèces de lumières rouges. Et puis, devant nous, on a les Israéliens qui frappent le sud de Beyrouth. Vous voyez le type d'endroit. Et on se rend compte qu'en fait, l'endroit, il fait partie aussi de l'évacuation demandée par les Israéliens. Donc, Baabda se trouve potentiellement dans une zone qui peut être frappée. Puis là, on se dit, mais ils vont pas frapper des journalistes. Puis là, on se dit... Quand même,
vu ce qui s'est passé à Gaza.
Ouais, voilà, c'est ça. Vous voyez, mais on s'en rend compte sur le coup. Voilà. Alors ça, c'est une des certaines choses qui peuvent vous arriver là-bas. Après, il y a plein d'autres. Puis je suis pas là pour parler de moi. Mais si vous voulez, ça vous donne l'idée des conditions de vie en fait dans le pays qui ne se limitent pas à un immeuble qui explose et un panache de fumée. Et bon, il y a des dégâts, il y a des blessés. Ensuite, les choses reviennent normalement. Non. Vous allez toujours avoir le bruit du drone qui peut frapper le centre-ville de Beyrouth. On l'a vu, le même drone peut envoyer des Hellfire dans la suite d'un hôtel parce que des gardiens de la Révolution s'y trouveraient ou des gens du Hezbollah. Là, les frappes qui ont eu lieu mercredi dernier, qui ont causé la mort du secrétaire général du Hezbollah, on fait 300 morts, donc 300 morts pour un secrétaire général du Hezbollah.
L'ambassadeur voilà. D'Israël en France vous expliquera que c'est un grand malheur, mais que enfin voilà.
Oui, voilà, mais que ça valait le coup. Ouais. Ouais. Et surtout en frappant cette fois-ci des quartiers comme ou des zones comme Zaitouna Bay, qui est ultra touristique, équivalent de la promenade des Anglais de Nice, construit par les Saoudiens à l'époque d'Hariri, donc qui n'ont rien à voir avec de l'immeuble chiite habité par des habitants misérables du sud de la capitale.
Et il nous reste deux minutes. Vous l'avez souligné, il y a une occupation israélienne du Liban de 1982 à 2000. Du coup, le Hezbollah surgit. Il y a une attaque israélienne et américaine contre l'Iran. On a l'impression que le pouvoir en sort renforcé. Le tout sécuritaire et le tout militaire israélien a l'air d'obtenir exactement les résultats inverses. C'est-à-dire, sous prétexte que la seule solution est une solution qui doit être absolument... militaire, parce que c'est la seule qui apporte 100% de sécurité, en fait, on enquiste l'intégralité des problèmes diplomatiques.
Bah, la technique de Benjamin Netanyahou depuis le 7 octobre est déjà de ne pas être redevable de ce qui s'est passé le 7 octobre, ça c'est quelque chose qui viendra, hein. Je pense qu'il y aura les Israéliens qui fonctionnent, c'est quand même une démocratie qui fonctionne, il y aura un volet, il y aura une enquête véritable qui a commencé d'ailleurs, il y a déjà eu des pour savoir qui sont les coupables des négligences qui ont permis au Hamas d'attaquer les kibboutz du sud d'Israël et de faire autant de victimes. C'est d'ailleurs assez incroyable qu'on arrive à placer placer des bombes dans les beepers du Hezbollah et qu'on n'ait pas réussi à contrer ni à prévoir l'attaque du Hamas le 7 octobre sur le sud d'Israël. Mais le problème de Netanyahou, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une crise, quand la crise est en phase de se résoudre, il crée une autre crise quelque part. Le Hezbollah a attaqué Israël le 8 octobre, mais le front du Nord était relativement peu actif. Enfin, il y avait quand même des projections, il y avait quand même des missiles qui partaient, mais on n'était pas dans l'intensité de l'opération à Gaza. Et donc, quand l'opération à Gaza est arrivée à un certain point, il y a eu un basculement environ 6 mois après l'intervention de Tzahal, vers le nord. Ensuite, il y a eu l'attaque contre l'Iran. Et aujourd'hui, les menaces commencent à peser sur la Turquie, où Erdogan lui-même, d'ailleurs, a dit qu'il était prêt à intervenir en Israël. Donc vous avez une sorte de cascade permanente de recherche, finalement, d'une course à la guerre de la part de Netanyahou. Et est-ce que ce sont ses ennemis judiciaires qui pourraient l'amener en prison pendant de nombreuses années? D'ailleurs, le procès devait se tenir hier. Il a été ajourné en raison de l'actualité. Donc, vous voyez, à chaque fois, Netanyahou arrive à éviter ce procès en continuant ses guerres, en sachant quand même qu'il y aura une limite à un moment. Le chef d'état-major de l'armée israélienne a expliqué que, 400 000 réservistes, parce que c'est ça le problème, c'est que les réservistes, ça veut dire que tous ceux qui ont une activité dans la vie civile, les patrons d'entreprises, etc., sont au front. Donc les entreprises ne peuvent pas tourner. Donc le problème israélien, il est là. On n'est pas avec une armée professionnelle. On est avec des gens d'Israël qui sont dans une société. Et aujourd'hui, cette société, elle ne tourne plus en raison de la guerre. Et qu'à un moment, tout ça va... Et surtout si les Américains parviennent à faire un accord avec l'Iran. Ça aussi, c'est on voit très très bien que depuis le début, et depuis les cessez-le-feu de Donald Trump, on voit que les Israéliens sont tout à fait disposés à continuer à faire en sorte que les États-Unis soient obligés de continuer cette guerre. Voilà.
Merci beaucoup, Régis Chaussemier.
Merci, Richard.
Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros. Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Et cette ligne droite, c'est avec Raphaël Audouard, directeur de la Fondation Patriote pour l'Europe.
Bonjour.
Bonjour. Alors évidemment, on va parler des élections en Hongrie. Donc les résultats, on les connaît, mais commentez-nous la répartition des voix.
Alors en fait, comme vous le savez, l'opposition, le parti Tisza mené par Peter Maga a remporté les élections avec 53% des voix. Donc ils remportent 2/3 des sièges, ce qui leur permettra de changer la constitution et d'agir sur la nomination d'un certain nombre de figures importantes hongroises. Le parti, le Fidesz de Viktor Orbán et ses alliés ont remporté 38% des voix. Et en plus de ça, on a un parti nationaliste, Miazank, situé à la droite du Fidesz, qui remporte 5% des voix. L'opposition avait retiré la plupart de ses listes, donc les partis centristes et de gauche s'étaient retirés, pour laisser la champ libre à Peter Maga. Et les quelques partis qui s'étaient quand même présentés ont fait des scores ridicules, un effet vote utile ayant poussé l'ensemble des sympathisants de l'opposition à voter pour la liste de Peter Maga. Donc c'est une victoire de l'opposition qui a été reconduite d'ailleurs immédiatement par Viktor Orbán. On rappellera que les médias qui nous parlaient en permanence du caractère dictatorial ou autoritaire de Viktor Orbán, Viktor Orbán a perdu l'élection et a reconnu immédiatement sa défaite, donc il n'y a pas eu du tout de volonté de sa part de s'opposer à cette victoire de Peter Maga. Donc on aura maintenant l'opposition au pouvoir en Hongrie.
Alors, quelles sont les raisons de cette victoire?
En fait, contrairement à ce qui a été beaucoup dit, ce n'est pas le discours sur l'Ukraine, ce n'est pas l'immigration, ce n'est pas des sujets comme ça qui ont mené à la défaite de Viktor Orbán. C'est vraiment des sujets économiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la situation économique hongroise est difficile du fait des crises économiques qui touchent la Hongrie et l'ensemble de l'Europe depuis la guerre en Ukraine, puis maintenant la guerre au Moyen-Orient. Donc on voit aujourd'hui en Hongrie une augmentation des prix de l'énergie, une augmentation très forte de l'inflation, une baisse du pouvoir d'achat, des débats autour des retraites, puisque pour essayer de compenser ça, la Hongrie offre un 13e mois de retraite aux retraités, mais du coup, ça pose problème pour les actifs. Et ce qu'on voit, c'est quand on interroge les Hongrois, c'est que c'est ces questions économiques, avant tout, qu'ont mené à une rupture avec le gouvernement Orbán. À ça s'ajoute une lassitude du pouvoir après 16 ans de gouvernement, surtout chez les jeunes. Ce qu'on a vu, c'est que les jeunes ont voté massivement pour l'opposition. C'est une catégorie qui avant se répartissait assez bien entre Orbán et l'opposition, et qui maintenant votent massivement pour l'opposition, et à l'inverse, des sujets comme l'immigration, comme l'Union européenne, comme l'Ukraine, ou comme les questions LGBT ou de féminisme, ont très peu agi dans la campagne. Pour une raison très simple, en fait, c'est que Peter Magyar, donc le leader de l'opposition, le nouveau Premier ministre hongrois, vient du Fidesz, vient du parti de Viktor Orban, et globalement un homme de droite. Pendant longtemps, il a soutenu Viktor Orban. Sur les questions d'immigration, il soutient plus ou moins les politiques d'Orban. Même d'ailleurs, il est parfois plus dur, puisqu'il a critiqué l'immigration légale qu'il y a en Hongrie depuis quelques temps du fait des politiques de Viktor Orban. Sur les questions de l'Union européenne, il est beaucoup plus proche de l'Union européenne, évidemment, mais c'est avant tout pour pouvoir récupérer les 17 milliards que l'Union européenne promet à la Hongrie si Viktor Orban s'en va. Sur l'Ukraine, il a aussi pris des positions, il refuse de soutenir l'Ukraine. Et sur le sociétal, par exemple, il a refusé de se positionner sur l'interdiction de la gay pride de par Viktor Orban. Donc Peter Magyar est clairement un opposant de droite. Alors évidemment, toute l'opposition libérale et de gauche est ralliée à lui, parce que c'était la figure la plus à même de l'emporter sur Viktor Orban. Il n'y a pas eu du tout de volonté de sa part de cliver sur ces questions-là, en fait. Donc contrairement à ce que peut être dit, ce n'est pas une défaite du patriotisme ou du conservatisme d'Orban. C'est vraiment les questions économiques qui ont joué le plus dans cette élection.
Alors, une dernière question toute petite. Les conséquences de ce changement pour la Hongrie?
En fait, sur le court terme, les politiques sur l'immigration, sur le conservatisme ne devraient pas changer. Et sur le long terme, en fait, Peter Magyar va être face à une difficulté. Déjà, Viktor Orban reste puissant. Il y a un écosystème conservateur autour du Fidesz qui reste très actif et très puissant. Et surtout, sur le long terme, Peter Magyar va être obligé de cliver, en fait. Ça veut dire qu'à la fois l'Union européenne et une partie de l'opposition libérale et de gauche voudra revenir et voudra le pousser à prendre des positions beaucoup plus progressistes et beaucoup plus mondialistes. Et à l'inverse, une partie de sa base électorale conservatrice et patriote lui en voudra s'il le fait. Et du coup, il risque d'être plus en tenaille entre les deux blocs qui ont voté pour lui. Et sur le long terme, on pourrait imaginer que Tissa finisse par exploser entre différents partis, d'autant plus que les autres partis d'opposition qui ont retiré leur liste ne le feront pas aux prochaines élections. Donc ce qu'on va voir, c'est probablement une répartition de l'électorat de Tissa entre la gauche, le centre, et peut-être un autre parti conservateur qui réémergerait. Mais ce qu'on voit en tout cas, c'est que les Hongrois restent un peuple de droite, patriote et conservateur.
Bien, merci beaucoup Raphaël Edouard.
Merci à vous.
Ligne droite, la revue de presse de Gilles Brochard.
Et bonjour Richard.
Bonjour Gilles. Alors, il y a eu deux événements importants dans la presse, deux entretiens croisés.
Oui, alors tout d'abord, un entretien croisé entre Régis Debray et Sylvain Tesson dans les colonnes du Figaro Magazine, alors qu'ils sortent un livre à deux voix, j'y reviendrai. Et hier, dans le JDD, daté de dimanche et lundi, je dis bien daté de dimanche et lundi, vous pouvez le trouver en kiosque jusqu'à demain, un entretien croisé entre Philippe Devilliers et Boualem Sansal, orchestré par Geoffroy Lejeune. Alors en effet, deux événements symboliques de la période sombre que nous traversons, et Boualem Sansal le dit clairement, la France ne doit ni réfracter ni s'effacer. Elle doit se rappeler à ce qu'elle est et savoir où elle veut aller. En vérité, les Français ne haïssent pas la France, ils détestent ce qui, en eux, à l'intérieur d'eux, a permis que leur belle et merveilleuse France, la douce France de leur enfance, ait été violée, souillée, méprisée, insultée. Ils s'en veulent, oui, ils s'en veulent chaque jour un peu plus. Alors quand Geoffroy Lejeune lui dit dans un message adressé à Philippe Billier, vous avez écrit « Je retrouve la France aujourd'hui affaiblie ». Boualem Sansal renchérit. En revenant de captivité, j'ai regardé la France avec une certaine distance. J'étais moi-même en situation de détresse. Je ne savais à quoi m'accrocher. Ma santé s'améliorant, j'ai voulu reprendre ma relation d'amour avec la France. J'étais si fier de ce qu'elle a fait pour moi, pour ma libération et après ma libération. Elle m'a ouvert, elle m'a couvert d'attention, de sympathie, de distinction, la Légion d'honneur, l'Académie française, et je les reçois comme un devoir mis sur mes épaules, une mission. Mais au fond de moi, j'étais triste. J'ai trouvé ma France plus affaiblie que jamais, plus désorientée que jamais. Il y règne une atmosphère de fin de règne, de fin de civilisation. Alors Boualem Sansal va plus loin, puisqu'il dit « Elle était une lumière dans le monde, elle n'éclaire plus rien, se dire français est devenu un aveu de culpabilité ». Et puis alors vient sur la table le débat sur l'islamisme et son invasion en France. La réponse ne peut être seulement morale, elle doit être politique et symbolique, assure Sansal. Les structures qui travaillent à l'anéantissement doivent être dissoutes, et ceux qui combattent la France de l'intérieur déclarés ennemis et boutés du pays. Le sursaut est possible, mais il suppose lucidité et décision. Ce sont les élites qu'il faut convaincre d'assumer leur mission d'éclaireur de la société et de commencer par se libérer elles-mêmes d'abord pour revivifier le sentiment national et la fierté d'être français.
Alors à propos de fierté d'être français, que dit Philippe Devilliers ?
Alors, justement, lorsque j'ai appris que Boualem Sansal était élu à l'Académie française, dit-il, j'ai pleuré de joie. Quel retournement, quel renversement. Après l'épreuve mortifère de la geôle sans espoir, voici la mise en lumière et le statut d'immortel. Boualem est bien de notre peuple, français de désir qui ose aller chercher la France là où elle existe encore, la France des grandeurs cachées. À lire dans le JDD, encore en vente aujourd'hui hein, et demain dans les kiosques. Alors, on lira aussi dans le Figaro l'entretien ce matin entre Boualem Sansal et le père Michel, co-auteur du livre Augustin avec nous, chez Fayard. Sansal regrette que les discours du pape devront être en anglais au lieu d'être en français. Et... en Algérie, hein, puisqu'il arrive en Algérie.
Tout à fait, une exigence algérienne. Et Boualem Sansal qui d'ailleurs a prévu d'attaquer l'Algérie.
Absolument.
Alors, vous nous parliez d'un autre...
Oui. Alors, c'est Régis Debré et Sylvain Tesson qui sont à la une du Figaro Magazine, qu'on peut trouver encore. Alors, moi, j'ai trouvé ça passionnant parce qu'ils viennent tous les deux de faire paraître Le Grimpeur et le Grognard, Courir le monde ou faire l'histoire, chez Gallimard, en association avec les Équateurs. Alors, c'est un petit livre, hein, ça fait 96 pages à paraître le 16 avril, mais Alexandre Devecchio les a réunis dans la maison de Régis Debré. Alors, on voit Sylvain Tesson, cigare à la bouche, photographié par Olivier Corré, et Debré joue le vieux sage revenu de tout, mais fier de ses idéaux révolutionnaires de jeunesse, écrit Devecchio. Tesson, l'aventurier solitaire et allergique au militantisme, en quête perpétuelle de lui-même. Debré s'amuse à incarner l'homme de gauche, Tesson l'homme de droite. Chacun tente de définir sa position, mais les deux écrivains n'aiment rien tant que brouiller les pistes et leurs deux bords n'apparaissent pas toujours si éloignés. Ainsi, d'un côté, Tesson l'ermite, dévoreur de grands espaces, et de l'autre, un solidaire devenu solitaire, le grand défenseur des frontières, regardant dans le rétroviseur. Alors, je retiendrai cette remarque de Sylvain Tesson que je vous laisse à votre réflexion, mon cher Richard. Il y a ceux qui veulent jouir du monde et ceux qui veulent peser sur le monde, ceux qui veulent en profiter, le connaître, le fêter, y disparaître, les ermites, les alpinistes pour aller vite, et puis ceux qui, au contraire, veulent imposer leur marque. Voilà, à lire dans le Figaro Magazine.
Alors, puisque vous évoquiez le pape, justement, la presse s'intéresse à ce voyage du pape du 13 au 15 avril en Algérie.
Oui, alors Étienne de Montetti rappelle en une du Figaro qu'officiellement l'Algérie a inscrit la liberté religieuse dans sa constitution. Mais dans les faits, les entraves sont innombrables, parfois très graves. Les chrétiens évangéliques voient leur église fermée, des responsables emprisonnés pour prosélytisme. La situation de l'église catholique y est plus facile, mais comme sur toute terre musulmane, il ne fait pas bon pour un croyant choisir une autre rive, celle du Christ. Alors Montetti rappelle aussi que des milliers de migrants arrivent du sud, hein, poussés par le chaos au Sahel. Leur présence agace les autorités, bouscule la société, écrit-il, et parmi eux, beaucoup de catholiques qui offrent à la communauté locale un regain inattendu. Alors en page intérieure, Jean-Marie Guénois précise que lorsque le pape a confirmé ce voyage en Algérie, il avait donné ses raisons. Personnellement, j'espère aller en Algérie pour visiter des lieux fréquentés par saint Augustin. La figure de saint Augustin aide beaucoup pour jeter des ponts, car en Algérie, il est très respecté en tant que fils de la patrie. Avec un autre but, poursuivre le dialogue, la construction de ponts entre le monde chrétien et le monde musulman. Et le journaliste précise aussi qu'un colloque sur saint Augustin avait eu lieu en 2001, soutenu par le président de l'époque, Abdelaziz Bouteflika, pour réhabiliter saint Augustin, alors que cet éminent chrétien avait été longtemps assimilé au colonialisme. Et le futur Léon XIV est ensuite revenu dans ce pays en 2013 à l'occasion de la réouverture de la basilique d'Annaba après une longue restauration financée par l'État algérien, des donateurs français et un don privé de Benoît XVI. Mais le pape devrait visiter aussi la grande mosquée d'Alger qui est la troisième la plus grande au monde. Et Léon XIV s'est déjà rendu d'ailleurs à la Mosquée Bleue à Istanbul en novembre 2025. Il se met en ce sens dans le sillon du pape François, poursuit Jean-Marie Guénois, afin d'entretenir de bonnes relations avec le monde musulman. Sans éluder bien sûr l'identité du christianisme, comme le pape américain l'a nettement montré en Turquie, il devrait d'ailleurs insister, selon le Vatican, sur la coexistence entre chrétiens et musulmans, thème qu'il développera tout au long de sa tournée africaine. Donc à suivre ce voyage du pape et à lire dans le Figaro.
Voilà, alors à suivre aussi, d'ailleurs, l'étude que Grégoire Pupinck avec le CLJ a publiée sur justement le sort des chrétiens en Algérie, parce que là, on parle de 8000 catholiques, donc c'est très sympa de nous parler de Saint-Augustin, le berbère du 4e siècle, mais enfin, depuis, il y a eu quelques siècles de domination ottomane et ensuite quelques dizaines d'années de FLN. On a au contraire une persécution enragée contre les chrétiens,
voilà,
et contre,
c'est ce que
contre
je disais,
les catholiques,
parce que
et le fait de jeter des ponts paraît en fait totalement illusoire, soyons francs.
Bah, de toute façon, on sait très bien ce qui va se passer, tout est formaté, organisé. C'est pour ça que lisez l'interview justement de Boualem Sansal avec le père Michel qui sort un livre sur Saint-Augustin, c'est intéressant de voir, en fait c'est un prétexte, mais évidemment je pense que le pape va peut-être lancer un appel pour la réunification des catholiques en Algérie, mais ça pose plein d'autres problèmes qui vont être soulevés ou pas, on verra bien.
Alors, il nous reste deux minutes, mon cher Gilles. Indépendamment de cette excellente revue de presse, est-ce que vous êtes allé au salon du barbecue ce week-end ?
Eh bien, figurez-vous que je n'étais pas invité. C'était pas une raison. Non, je n'y suis pas allé, mais j'avais été l'année dernière. J'en avais parlé avec notre ami...
Lislotte, qui est à côté de moi
et que je salue ce matin. Non, mais je sais que les Français aiment les grillades et préparent leur barbecue très activement. Et moi, je suis un adepte, comme vous le savez, de la salamande, des grillades, des feux de bois. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, c'est sûr.
Alors, et vous, Lislotte, un mot à ajouter, sinon sur le barbecue, du moins sur autre chose ?
Oui, sur les barbecues, déjà, j'espère pouvoir en faire cet été avec de la viande bien saignante, puisque j'ai dû arrêter pendant quelques mois. Je profite de ce passage éclair pour venir vous prêter main forte, Richard, pour annoncer aux auditeurs ce que certains avaient déjà deviné. Mais je n'ai pas fait cette saison de Radio Courtoisie tout à fait seule, puisque je devrais devenir maman d'ici quelques semaines. Et donc, c'est la raison de mon absence, de mes quelques départs de l'antenne, de façon parfois un petit peu spontanée selon les symptômes. Je vous l'annonce aujourd'hui, je vais partir en congé maternité. Je reviendrai en pleine forme, je l'espère. Est-ce un vœu pieux en septembre. Mais voilà, dans tous les cas, je ne déserte pas le pont, je pars me reposer pour mieux revenir. Voilà.
Et d'ailleurs, le camarade Lislotte n'avait pas du tout déserté, puisque en fait, elle était en télétravail et elle continue à architecturer.
Je veille au grain depuis mon salon.
Mais voilà, nous, toute cette matinale se réalise sous sa férule et sous son égide.
Je suis sûre qu'Emmanuel Macron apprécie ma volonté de participer au réarmement démographique.
Mais bien sûr.
Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Gilles, d'avoir été avec nous ce matin. Nous aurons quand même un reportage sur le salon du barbecue par Benjamin Disbach qui sera
formidable.
Demain. Et merci beaucoup, Lislotte, d'avoir échappé à votre résidence surveillée en province pour venir nous visiter ce matin. Chers amis, il est 9h41 précisément. C'est le moment de prendre congé de vous qui nous suivez en direct sur YouTube et sur X. C'est le moment aussi de rappeler que vous êtes 1,5 million à nous écouter, tout canon confondu. 1,5 million d'individus précisément identifiés et isolés en tant que tels. Et ben, n'hésitez pas, faites partie aussi des quelques milliers qui nous s'étiennent. Voilà, 1,5 million d'un côté, moins de 20 000 de l'autre. Voilà, il y a un petit espace à franchir pour 1 € ou 2 €. Soutenez-nous.
Ah bah, sur multiplier le nombre d'auditeurs par 1 € ou 2 €, les problèmes seraient quasiment tous réglés, ça serait parfait et c'est peut-être possible. Il suffirait que quelques-uns donnent 3, 4, 5, 10, 15 ou 20 € pour équilibrer et le financement de Radio Courtoisie serait plus pérenne. soutenir.rc.fr pour faire votre don en ligne dès maintenant, soutenir.rc.fr ou votre chèque au 61 boulevard Murat 75 016 Paris. Merci.
Voilà, et tout de suite, nous en profitons pour réécouter l'interview de Martin Selner par Maëlys sur la remigration. L'Europe est-elle enfin prête ?
Ligne droite. Debout les Français.
Pour ce Debout les Français, chers auditeurs, nous avons le plaisir de recevoir Martin Selner, activiste identitaire autrichien, qui nous fait le plaisir donc de venir dans nos studios, venir nous voir dans les locaux de Radio Courtoisie. Alors Martin Selner, vous êtes donc activiste identitaire autrichien et vous êtes la figure qui a popularisé la remigration à travers l'Europe. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs et surtout revenir sur votre parcours ?
Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un honneur et un plaisir pour moi d'être ici. Et oui, je suis un auteur et militant autrichien. Et la première chose que je dois dire au public français, c'est désolé, excusez-moi, car nous avons emprunté le terme de remigration à la France. C'est génération identitaire qu'il a utilisé en premier dans un contexte politique. Mais à partir de 2021, nous avons créé un mouvement de fond qui a maintenant atteint même l'Amérique avec Trump. Musk retweet le terme de remigration. Et c'est aussi ma mission. J'essaye de rendre la remigration courante parce que je pense que, d'abord, nous devons être libres d'en parler dans le débat. Et ensuite, cela pourra devenir une réalité politique.
Donc la remigration, c'est un projet qui est très souvent caricaturé. On entend beaucoup de médias en parler, etc. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement quel est le concept de la remigration ?
En fait, la remigration n'est pas très... La remigration n'est pas sorcier, donc ce n'est pas très compliqué. En gros, cela signifie simplement que nous restons ici et qu'ils partent, pour dire les choses simplement. Mais pour entrer un peu plus dans les détails, cela ne signifie évidemment pas que tout le monde part, mais la remigration signifie que les clandestins doivent partir, les gens qui n'ont pas la citoyenneté, qui ne contribuent pas, qui commettent des crimes, qui sont un fardeau pour l'économie, doivent partir. Mais il y a aussi un troisième groupe de citoyens non assimilés, des gens qui ont été naturalisés, qui n'auraient jamais dû être naturalisés pour former des sociétés parallèles. Et ici, la remigration signifierait d'exercer une pression économique et culturelle sur ces sociétés parallèles, tout en créant des incitations.
Pour un retour volontaire au pays. D'accord. Et justement, comment cela pourrait concrètement s'articuler, s'orchestrer efficacement, de manière politique et surtout diplomatique, avec les pays concernés, notamment ceux dont sont originaires les ressortissants ?
Je ne pense pas que ce soit un problème. Je pense que s'il a été possible que des millions de personnes entrent ici illégalement, il sera possible que des millions de personnes partent légalement. Nous venons d'avoir une décision très importante au Parlement européen selon laquelle on peut créer des centres de retour hors d'Europe. Et cela résout le problème, par exemple, des pays qui reprennent leurs clandestins immédiatement parce que nous pouvons tous les amener là-bas. Je pense que si les gens disent que c'est impossible, cela signifie que nous ne voulons pas le faire.
Je
ne pense pas que nous devions être trop sur la défensive ici. La remigration plutôt que la résignation. Et au moins, nous devrions essayer. On devrait d'abord essayer et voir si ça marche.
Vous pensez qu'il y a un manque de volonté politique derrière toutes ces personnes qui sont réticentes à l'idée de la remigration ? En réalité, c'est qu'ils ne veulent peut-être pas une vraie coupure avec l'immigration illégale, comme légale d'ailleurs.
Absolument. Je suis absolument convaincu que les politiciens, surtout aussi malheureusement les conservateurs, ne font que des signes à la droite, mais ils restent sur cette voie d'autodestruction. Il y a un manque de volonté politique. Et bien sûr, la gauche veut maintenir les flux migratoires parce qu'ils en profitent. Ils importent leurs électeurs. Vous avez toute l'industrie de l'asile. Ils tirent beaucoup d'argent de l'immigration de masse. Et je pense que les forces de droite, les patriotes qui sont pour la remigration, sont dispersés. Ils ne sont pas assez puissants. Et nous devons former cette volonté politique pour faire de la remigration une réalité. Mais si nous sommes assez forts, si cette volonté politique est formée, alors ce n'est pas du tout un problème de le faire. C'est arrivé tout le temps dans l'histoire. Il y a beaucoup de nations qui le font en ce moment, et nous, Européens, pouvons faire de même.
Vous, en tant que personne qui a popularisé la remigration au sein du débat public et notamment dans toute l'Europe, comment vous avez fait véritablement pour mettre sur le devant de la scène une idée quand même comme ça qui est extrêmement controversée ?
C'est dur, c'est compliqué, mais ça marche et c'est la beauté de la normalisation. Et aussi, je dirais, c'est comment la diabolisation de la gauche se transforme en propagande et en promotion pour nous. Donc en essayant de diaboliser l'idée, la gauche a rendu l'idée populaire. Et c'est un peu comme dans le film Pirates des Caraïbes, vous savez, avec Johnny Depp. Et il y a cette scène où le gars dit « Vous êtes le pire pirate dont j'ai jamais entendu parler ». Et la réponse est « Mais vous avez entendu parler de moi ». Et c'est exactement la même chose avec la remigration. Des millions de personnes en ont entendu parler. Et ce que nous essayons de faire, c'est de la normaliser. Et en la répétant simplement, nous créons cette idée, cette image dans l'esprit de millions de personnes en leur donnant de l'espoir. Et je pense que c'est ainsi que nous pouvons faire de la remigration une réalité. La normaliser, la répéter, l'expliquer aux gens jusqu'à ce que le rêve devienne une réalité politique concrète.
Et vous pensez que la majorité des Européens, qui sont d'ailleurs pour beaucoup aujourd'hui anti-immigration, puisqu'on le voit, il y a plein de candidats de droite qui arrivent très souvent très haut dans les sondages, voire qui gagnent les élections, Vous pensez qu'un projet comme la remigration peut véritablement les fédérer et donc les mettre tous d'accord pour appliquer une telle politique ?
Oui, je pense que c'est possible, parce que vous avez déjà les majorités dans les sondages, comme vous l'avez dit. Ce qui nous manque maintenant, ce sont des partis politiques qui l'appliquent. Et je pense qu'il y a un grand rôle à jouer pour les médias alternatifs, pour des formats comme Radio Courtoisie, mais aussi pour des mouvements comme le mien, parce que la gauche gagne non pas parce qu'elle a le Parlement. Le vrai pouvoir est en dehors du Parlement, le pouvoir est dans la rue. Des mouvements comme Black Lives Matter, Fridays for Future, et c'est ce dont nous avons besoin. Et c'est aussi un appel de ma part à tous les patriotes français qui nous regardent. Il ne suffit pas, si vous voulez sauver la France, de mettre un petit morceau de papier dans une boîte en plastique tous les 4 ou 5 ans. Non, il faut faire plus. Et c'est pourquoi nous devons faire de la remigration un immense mouvement citoyen en Europe.
Alors effectivement, les Européens et même les Français finalement font de moins en moins confiance aux politiques, puisqu'ils sont très très souvent déçus. Mais il y a quand même quelques partis politiques de droite qui sont courageux. Nous, en France, on a celui d'Éric Zemmour, Reconquête, qui d'ailleurs prône la remigration. C'est le seul parti de droite à la prôner. Il y en a aussi également en Italie, en Allemagne aussi, avec l'AFD. Est-ce que vous pensez que c'est un projet qui doit être mené à l'échelle européenne ? Ou alors est-ce que la remigration peut arriver à ses fins ? Seulement si quelques pays en Europe l'appliquent, ou est-ce qu'il faut vraiment que ce soit quelque chose de global ?
C'est une très bonne question. Je dois dire que les deux me conviendraient. S'il y a une alliance d'États pour la remigration hors d'Europe, par exemple comme les États de Visegrad, si cela nous mène au but plus tôt, ça me va. Mais compte tenu de la très bonne évolution au niveau européen, avec cette nouvelle résolution où même les conservateurs travaillent avec la droite dure, je pense qu'il y a vraiment une chance que la réforme vienne du niveau européen. Et en termes de remigration, on a vu tant de partis politiques adopter le terme, pas seulement l'AFD et le FPE, mais aussi Vox, Chega et Restore Britain. Incroyable. Je dirais qu'ils devancent tous les autres partis de droite en termes de politique. La politique d'expulsion est incroyable. Et ma vision est aussi que tous ces différents partis européens s'inspirent les uns les autres. Et comme vous le savez peut-être, je fonde un think tank en ce moment, l'Institut pour la remigration. Nous voulons devenir le catalyseur de ce discours. Et je pense qu'un jour nous serons assis ici et que le Rassemblement national aussi parlera enfin à nouveau de remigration. C'est mon espoir pour la France.
Merci pour cet espoir. On espère que ce sera le cas également. Alors vous le savez, avoir de telles idées, prôner de tels projets, eh bien ça a un prix. Vous subissez beaucoup l'acharnement judiciaire. Il y a plusieurs pays en Europe dans lesquels vous êtes malheureusement interdit de vous rendre.
Eh bien, juste quelques faits sur ma vie. J'ai été devant les tribunaux pour formation d'organisation criminelle, acquitté, puis organisation terroriste, acquitté aussi pour incitation à la haine. Discours de haine. J'ai perdu 116 comptes bancaires. Ma voiture a été brûlée par les antifas, j'ai eu 3 perquisitions à domicile. Alors oui, ça a coûté cher. Il n'y a pas de liberté d'expression en Europe. Si vous parlez de certaines choses, cela, c'est un prix très très lourd à payer. C'est comme Idi Amin disait en Afrique, je peux garantir la liberté d'expression, mais pas la liberté après l'expression. Malheureusement, si vous dites quelque chose en Europe, vous devez en payer le prix fort. Mais nous le faisons volontiers, car nous savons que nous facilitons les choses pour ceux qui suivront. Nous sommes une avant-garde, nous sommes comme un brise-glace. On encaisse les coups durs. Mais derrière nous, on voit que ça se normalise, que la jeunesse vire à droite. Il suffit d'ouvrir TikTok pour voir ce qu'il se passe. Donc je pense que tous ces efforts paient.
Qu'est-ce que vous répondez à cette gauche qui dit que la remigration, donc ça viendrait à l'encontre du droit humain, notamment pour les immigrés, ceux qui viennent en France, etc. La gauche explique sans cesse que ça serait donc finalement les couper de leurs droits fondamentaux. Est-ce que finalement le droit le plus important, c'est pas aux Européens de rester dans l'Europe dont ils ont toujours connu, qu'ils ont toujours connu ?
Je pense qu'il n'y a pas de droit de l'homme à vivre parmi les Européens. Il n'y a pas de droit de l'homme pour le monde entier à venir en France et devenir français. Ça ne fonctionne tout simplement pas comme ça. Et je dois dire que je pense que la remigration est aussi l'alternative la plus humaine. Parce qu'au final, nous voulons aider les gens dans leur propre pays. Nous voulons les aider à y prospérer. Nous voulons les aider à s'y créer des perspectives. Et la remigration n'est vraiment pas un projet hostile envers les migrants. Je n'ai rien contre les gens. J'essaie d'être toujours amical avec tout le monde. Mais évidemment, nous devons fixer une limite ici. Et je pense que aider les gens là-bas, démanteler ces réseaux de passeurs qui sont des criminels brutaux, souvent des terroristes islamistes, sera au final bénéfique pour ces nations. Elles perdent toute leur capacité intellectuelle. Et je pense que oui, ce sera difficile. Ce sera un projet difficile au début. Mais à long terme, ce sera mieux pour nous et pour les autres, car l'avenir de l'Afrique n'est pas en Europe.
Vous avez été porte-parole du sommet de la remigration à Milan, donc qui s'est déroulé l'an dernier. Cette année à Porto, on imagine que vous, vous y serez à nouveau. J'y serai aussi d'ailleurs, chers auditeurs, je vous ferai un reportage. Qu'est-ce que vous attendez de ce nouveau sommet à Porto cette année ?
C'est un événement vraiment incroyable. Je suis très heureux que nous l'ayons lancé. Cette année, ce sera bien plus important. Et je crois aussi que vous y étiez la dernière fois. On a eu des ennuis avec les Antifa et les médias. Cette fois-ci, ce sera un peu plus calme. Beaucoup plus de gens, politiciens, influenceurs, intellectuels, journalistes comme vous, se réuniront. Parce que c'est quelque chose que nous devons aussi apprendre de la gauche. Pas seulement l'activisme de rue, mais aussi les conventions. Ils ont toutes les conventions. Ils sont parfaitement mis en réseau. Ils travaillent tous ensemble. Et nous, identitaires et patriotes européens, nous ne nous connaissons souvent même pas. Cela doit changer et le sommet de la remigration doit devenir le cœur de ce mouvement en Europe. In Europe.
Quand est-ce que vous pensez que la remigration pourra-t-elle vraiment être appliquée ? On nous dit souvent que si en 2050 ça continue ainsi, eh bien l'Europe finalement sera grand remplacée. Ce terme que vous connaissez, j'imagine, très bien. Si la remigration n'est pas appliquée avant 2050, est-ce que ce sera un petit peu la mort de l'Europe ?
Absolument. Nous avons donc un délai très court, car le problème est qu'actuellement les Français sont encore majoritaires. C'est pareil en Allemagne et en Autriche. Mais notre majorité est composée de baby-boomers, de gens qui sont assez âgés. Et si vous regardez les gens comme vous, les femmes européennes blanches qui sont encore jeunes, c'est seulement 1,2 ou 1,3% de la population mondiale. Et en Allemagne, sur une nation de 83 millions d'habitants, il ne reste que 11 à 12 millions de femmes allemandes de souche de moins de 40 ans. Nous sommes donc déjà enceintes d'un califat islamique en France et en Allemagne. Et nous avons environ 10 à 15 ans pour inverser la tendance, pour créer une forteresse européenne, pour renvoyer chez eux les millions de personnes qui sont venues et qui n'ont pas leur place ici. Et si nous ne le faisons pas, nous serons confrontés à un scénario à l'Africaine du Sud. Ce serait une horreur pour nos enfants. Et ceux qui pourront s'échapper quitteront l'Europe, et les autres auront une vie horrible et vivront comme des prisonniers dans leur ancien état. Nous devons donc faire tout ce qui est en notre pouvoir pour sauver nos enfants de ce sort et entamer la remigration.
Merci beaucoup Martin Selner d'avoir été avec nous dans ce Debout les Français. Alors oui, effectivement, c'était un honneur de vous recevoir. On espère vous retrouver très vite dans les locaux de Radio Courtoisie puisque vous serez évidemment toujours le bienvenu. Et puis moi, je vous verrai donc à Porto pour ce sommet de la remigration qui promet d'être un franc succès comme le précédent. Merci beaucoup et à très bientôt.
Merci, merci.
h-10h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Richard de Sèze.
Chers amis, merci beaucoup d'avoir été avec nous jusqu'à 9h56 et 22 secondes, mais on va vous demander de rester encore un peu. Voilà, c'est le 8e ou le 12e appel au don qu'on vous fait ce matin, mais il faut vraiment que vous sachiez que merci beaucoup de nous soutenir. Voilà, et une fois plus, il suffit de pas grand-chose pour nous soutenir.
Un grand merci à ceux qui font déjà cet effort parce qu'ils ont compris que c'était la manière qu'a Radio Courtoisie de fonctionner, et un merci d'avance à ceux qui vont aller sur soutenir.rc.fr pour faire leurs dons dès maintenant. Merci.
Alors, avec les dons que vous nous faites, nous avons une programmation qui évidemment continue largement au-delà de la matinale ligne droite. Et par exemple, aujourd'hui,
hommage à Jürgen Habermas, deuxième approche dans Paroles et Pensées de Jean-René L'Admiral dans quelques secondes. À midi, le libre journal de Michel de Rostolan, 100 ans après sa naissance, hommage au professeur Lejeune. À 16h, Populaire vous avez dit populaire de Renaud Dourges. 16h30, En toute bonne foi de France Andrieux avec l'éthique de la santé, seconde partie. 17h, vous le savez, Culture et politique de Richard Haddad et Pierre-Henri, l'indépendance de la Kabylie face au totalitarisme du pouvoir algérien. 17h30, restons courtois avec Pierre-Alexandre Bouclet. Aujourd'hui, rendez-vous avec William Molinier et puis bien sûr le rendez-vous de la réinformation. 19h30, le libre journal du lundi soir de Romain Petitjean. Et puis à 21h30, dans la soirée musicale de Claudia, la fin de la série sur les génériques à Radio Courtoisie.
Excellente série, et je rappelle que Jean-René Lannéral est celui qui a traduit pour la première fois Jürgen Habermas en France. Voilà, c'est ça les gens qui font Radio Courtoisie.
Merci beaucoup Richard, et puis à demain 7h avec Alexandre, si j'ai bien suivi.
Absolument.